Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Effort, activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance, synonyme d'un point de vue moral, volonté, travail. Et il paraît que le sens de l'effort se perdrait, singulièrement chez les jeunes générations. Et si cette jeunesse prétendument plus flémarde que les précédentes n'était que le reflet de nos sociétés, au travail par exemple, avec cette envie de moins s'impliquer, ou dans nos modes de consommation avec l'avènement d'une économie de la paresse quand nous dégainons nos applis pour nous faire livrer des repas. Comment expliquer ce goût du moindre effort qui nous touche de plus en plus, ce sentiment d'être moins motivé dans de nombreux secteurs de nos vies? Avons-nous durablement perdu ce goût de l'effort depuis le début de la crise sanitaire? Et si oui, comment le retrouver? Élément de réponse avec l'éclairage de la Fondation Jean Jaurès. Et vous, quel est votre sentiment à ce sujet? Dans quel domaine de votre vie avez-vous envie de faire moins d'efforts? Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Est-ce que votre chronique Ma vie de parent vous a demandé beaucoup d'efforts ce matin?
Évidemment. Bah oui, on va parler de mes efforts, surtout souvent, parfois maladroits et contre-productifs pour susciter l'effort de mes enfants.
À tout à l'heure, Gwenaëlle. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je voulais faire une soupe, il me manquait de la crème fraîche. Et bien, j'ai commandé de la crème fraîche et rapidement elle arrive pour que je puisse préparer ma soupe ce soir. Voilà.
Livraison en 10 minutes, est-ce que ça va trop loin?
Je pense qu'il ne faut pas être du tout dramatique. Voilà, vivons avec notre temps et regardons vers l'avant et non pas vers l'arrière.
Pour vous, c'est le monde d'après?
Je pense, oui. Le progrès, tout simplement.
Bonjour Didier Pleux.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, psychothérapeute et vous avez récemment publié chez Odile Jacob « Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien ». Ce client-là qu'on vient d'entendre qui commande en 10 minutes la crème fraîche qui lui manque, il est représentatif de notre société du moindre effort que vous pourfondez?
Oui. Oui, parce que effectivement, on est toujours dans l'immédiateté. Enfin, tout est fait pour qu'on obtienne tout de suite à l'envi, et c'est l'inverse effectivement de ce que l'on demande dans l'effort, qui est toujours une construction à moyen et long terme.
Au fond, pourquoi ça ne vous plaît pas?
Non, ça me plaît bien parce que j'étais plutôt farniente. Moi, j'ai été éduqué dans le travail, c'est pas la santé. Donc, vous voyez. Mais par contre, je suis très inquiet parce que quand je vois effectivement je fais passer des tests de potentiel de QI à des ados, etc. Ça a changé depuis 30 ans, quoi. Il y a 30 ans, quand je faisais passer un test dur, hein, pas un test où je les trouve tous au potentiel, hein, ils échouent à mes tests. Mais en tout cas, quand ils passaient les tests il y a 30 ans, ils me disaient toujours, oh là là, comment je vais m'y prendre, quelle stratégie, qu'est-ce que vous en pensez, des choses comme ça, plutôt anxieux, estime de soi. Maintenant, c'est quoi votre truc, là? Ça me gave, là? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Ça m'inquiète, parce que s'il n'y a pas d'acceptation de la frustration, il y a beaucoup de malheur chez nos jeunes actuels, quoi.
On reviendra largement avec vous sur cette intolérance à la frustration qui a des liens avec cette perte du goût de l'effort. Depuis votre cabinet de consultation, hein, vous le disiez, depuis une quarantaine d'années, vous le dites, pardon, vous avez vu la grosse faute d'orthographe.
Oui.
Vous le disiez, pardon. Oh là là, ça commence bien cette émission. Hein. je baisse la garde sur l'effort en français, c'est pas bien ça, ponce sur le bec. Vous le disiez, cette intolérance à la frustration détient des liens avec cette perte du goût de l'effort. Et depuis votre cabinet de consultation, depuis une quarantaine d'années, vous percevez une baisse généralisée de ce goût de l'effort. Et si oui, comment ça se traduit?
Ça se traduit en général par de la non-performance scolaire, comme on dit, des gens qui ont des capacités qui sont assez bonnes et puis qui échouent parce que c'est trop dur ou ça m'intéresse pas. Je le vois aussi au niveau d'un sport. On zappe, par exemple, dès que je peux pas être avant-centre au football, c'est pas la peine, je quitte l'entraîneur. Un autre veut être musicien, mais on me fait faire du solfège, donc ça me gave, autant aller sur Internet, comme ça j'apprendrai une tune de piano très vite avec mon oreille absolue. Je vois des gens qui, pas tout le monde, hein,
pas de généralité.
Non, il y a des adolescents qui bossent, mais comme par hasard, ils ont appris. Et c'est ça que je voudrais insister aujourd'hui, ça n'est pas inné, le sens de l'effort. Hein. Souvenez-vous la belle émission qu'on avait eue avec Sébastien Boller, quand on disait ce fameux striatum noyau cubain chez l'humain,
qui fait que
c'est le creuset du principe de plaisir. L'homme est fait pour le principe de plaisir immédiat. Donc effectivement, si on n'est pas éduqué au déplaisant, au difficile, au frustrant, ça va être très dur. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus... la parentalité, c'est pas l'éducation au déplaisant, c'est l'éducation au sympathique, à l'empathique, etc. Ce qui est très bien, mais il manque le revers de la médaille qui est, la vie, elle est aussi assez dure et il y a le principe de réalité.
Bonjour Sébastien Bourré.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste, spécialiste des circuits de la motivation chez les primates. Alors, avec vous, on va explorer les mécanismes cérébraux de la motivation liés à cette question de l'effort. C'est dans la nature des humains de s'économiser pour survivre. Je cite votre confrère scientifique Boris Cheval dans Le Point qui dit « Cette logique est restée ancrée en nous quelque part dans notre patrimoine génétique, d'où notre propension à faire des tours de parking pour trouver la place la plus proche de l'entrée du supermarché, à choisir l'ascenseur plutôt que les escaliers, ou à se faire livrer plutôt que cuisiner. »
Oui, je pense que c'est pas du tout propre à l'homme. Je pense que c'est la plupart des espèces qui vivent dans un environnement difficile. Nous, on est protégés par la société. Chacun de nous, on est protégé par la société. On n'a pas à faire grand-chose. Les animaux qui vivent dans un milieu naturel, où ils ne sont pas aidés les uns par les autres, et ils passent leur temps à aller chercher à manger, essayer d'éviter les prédateurs, se reproduire quand ils peuvent, mais ils en ont besoin. Et donc, je pense que le... Je sais pas ce que c'est que le sens de l'effort. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée selon laquelle on a besoin de minimiser nos dépenses énergétiques. On doit faire ça pour survivre. Et toutes les espèces ont évolué pour minimiser les dépenses énergétiques.
Et ça, c'est ancré profondément en nous.
Oui, tout à fait. La question qu'on doit se poser, je crois, pour l'effort, c'est si on dépense de l'énergie, si on fait un effort, il faut que ça en vaille la peine. Sinon, on n'a pas de raison de le faire. Et donc, effectivement, c'est quand on va chercher loin dans le futur, qu'est-ce qui fait que on va dépenser l'énergie pour que demain soit mieux que si on faisait pas cet effort-là.
Il faut qu'il y ait un sens,
exactement. Il faut qu'il y ait un sens.
Peut-on dire que depuis que nos ancêtres ont fabriqué leurs premiers outils, eh bien nos sociétés se sont toutes construites avec pour l'idée de minimiser ces efforts et qu'on pourrait traduire l'histoire des inventions de ce point de vue-là, de l'invention de la charrue à celle du smartphone, réduire les efforts au maximum grâce à de nouvelles inventions?
Oui, mais encore une fois, c'est pas propre à l'homme. Toutes les espèces minimisent l'effort d'une façon ou d'une autre. Enfin, minimisent la dépense énergétique. La question qu'on peut se poser, peut-être, c'est à quel point certains individus ont fait des efforts pour que le reste de la société puisse en faire moins. Et ça, je pense que c'est pas trivial, on en profite. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce que moi qui utilise le smartphone, j'ai conscience de l'effort que ça a demandé et du sens qu'avait la construction de ce smartphone?
Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez bientôt une étude avec l'IFOP intitulée « Les Français, l'effort et la fatigue », pas encore paru. On parle d'une perte du goût de l'effort dans nos sociétés. C'est un phénomène qui touche l'ensemble de nos sociétés, tous les secteurs, tous les âges.
Oui, absolument. Ça touche tous les âges, ça touche toutes les jeunes générations, enfin toutes les générations, et notamment la jeune génération. Et nous, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a mené cette étude, c'est mesurer finalement l'impact de la crise sanitaire sur la baisse de motivation. La baisse de motivation à aller au travail, la baisse de motivation dans sa vie, la baisse de motivation pour faire une activité sportive. Le sentiment aussi d'être fatigué, plus fatigué ou pas par rapport à la crise sanitaire. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien les effets très importants de la crise sanitaire sur le sentiment d'être moins motivé, justement pour se rendre chaque jour dans son travail. On a beaucoup parlé depuis la rentrée, vous savez, de la grande démission. Il y a plein de raisons aussi, évidemment, pour expliquer la grande démission, mais je crois qu'il y a quelque chose, justement, à trouver aussi sur, en tout cas, autour de ce sujet lié au goût de l'effort, à la perte un petit peu aussi de ce goût de l'effort, en tout cas à cette baisse de motivation qu'on note notamment depuis la crise sanitaire.
Jérémy Pelletier, au début, cette émission devait s'appeler « Les jeunes ont-ils perdu le goût de l'effort » et j'ai élargi à l'ensemble de la société. Ai-je bien fait ?
Oui, vous avez bien fait, parce que globalement, en tout cas, on peut mesurer entre 30 et 40% notamment de la population française qui dit, depuis la crise sanitaire, être moins motivé, par exemple, pour sortir de chez elle. C'est ce qu'on a appelé, finalement, une sorte d'épidémie de la flemme. Et ben, l'épidémie de la flemme, entre guillemets, la motivation à sortir de chez soi, ça touche aujourd'hui entre 30 et 40% de la population française. Donc, c'est pas uniquement les jeunes, c'est quelque chose, effectivement, d'assez transversal. Et ça ne touche pas une catégorie sociale par rapport à une autre. C'est aussi quelque chose de très large, de très transversal, qui touche l'ensemble des catégories sociales. Donc, vous avez bien fait de ne pas stigmatiser la jeune génération, même si globalement, notamment dans la pratique sportive, on voit que là, il y a quelque chose qui touche principalement les jeunes générations, et notamment les 18-24, et dans la motivation, par exemple, pour se rendre au travail, si on prend les moins de 35 ans, il y a quelque chose, en tout cas, qui touche massivement et plus spécifiquement la jeune génération par rapport aux générations un peu plus âgées.
Sébastien Bourret, on va parler beaucoup d'efforts ce matin. C'est quoi un effort? De votre point de vue scientifique.
Alors, de mon point de vue scientifique, moi, ce qui me paraît important, je rebondis un peu sur ce qui a été dit précédemment. Je pense que c'est très important de séparer ce qu'on appelle la motivation. Alors, ce que nous on appellera la motivation incitative, c'est un phénomène qui fait que plus notre but est valable, plus la récompense est valable, plus on va dépenser de l'énergie. Ok, donc c'est un peu le travailler plus pour gagner plus. et ça, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle l'effort, qui est est-ce que je vais dépenser l'énergie en fonction du coût et de la difficulté? Eh bien non. Nous, ce qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est que ce système de motivation qui fait que automatiquement, quand quelque chose est plaisant, on dépense plus d'énergie. On peut le manipuler indépendamment de l'effort. Donc c'est ce qu'on parle tout à l'heure, dopamine, striatum, patati patata. En fait, l'effort, c'est pas ça. Nous, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est que on a manipulé le système dopaminergique.
Et on se rend compte. C'est quoi ce système? Expliquez en quelques mots.
Pardon. C'est un mot. Ça n'a pas. J'aurais pu dire coin-coin. Ça change rien. En fait. Ce qui est important, c'est que c'est un système qui permet d'augmenter la mobilisation de ressources. Donc, on va courir plus vite. On va appuyer plus fort sur une pince quand la récompense est plus grande. D'accord. Et ce système-là, il n'est pas sensible au coût lui-même. Ça veut dire que plus la récompense est grande, plus on va dépenser d'énergie. D'accord. Et nous, ce qu'on a montré, on a demandé, nous on travaille avec des singes, hein, on leur a demandé de faire des choix entre des options qui étaient caractérisées par des coûts et des bénéfices, donc des récompenses et des efforts physiques, il fallait qu'ils appuient sur une pince, et que leur sensibilité à la récompense, elle était dépendante de la manipulation du système dopaminergique. Et on a trouvé un autre système qui s'appelle le système noradrénergique, avec un autre neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline. Et celui-ci, quand on le manipule, les animaux deviennent spécifiquement sensibles à l'effort, mais pas à la récompense. Ce qui veut dire que dans le cerveau, on a un peu deux systèmes qui marchent en parallèle. Ils interagissent d'une certaine façon, mais on a un système qui permet de travailler plus pour gagner plus, quelque part, indépendamment du coût. Et un autre système qui va nous permettre d'ajuster l'énergie qu'on donne en fonction de la difficulté. Et donc pour nous, quand on va considérer la question de l'effort, on doit se poser la question de la difficulté, avec un but à long terme bien sûr, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de but à long terme, on ne doit pas faire d'effort. mais si on s'est fixé un objectif à long terme et que ce but a de la valeur, alors on peut utiliser ce système noradrénergique pour mobiliser des ressources quand c'est dur.
Didier, plus intéressant ce que nous dit Sébastien Bourret sur ce but à long terme.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, là je parlais tout à l'heure de la volonté de certains d'obtenir une récompense immédiate, et on sait très bien que tous les dégâts que ça fait avec la dopamine, les ados par exemple vont être complètement addicts aux écrans, parce que c'est un circuit de récompense très court, ça donne de la bonne chimie, et on n'a pas envie d'arrêter le système. Donc c'est intéressant d'entendre parler qu'il y a deux systèmes, mais quand vous dites qu'il y a le système de l'hédonisme à moyen et long terme, finalement, un truc qu'on peut envisager plus tard, est-ce que je vais accepter la frustration immédiate pour avoir quelque chose de plaisant plus tard. Je suis tout à fait d'accord.
Un exemple, par exemple, c'est de faire beaucoup de solfège, par exemple.
Tout à fait.
Avec le but, un jour, peut-être, de pratiquer le violon de façon plus ou moins brillante, quoi. De se dire, voilà, je vais passer de longues heures à ça. Et un jour, je vais avoir le plaisir de jouer du violon, mais il faut en passer par des moments qui sont pas forcément liés au principe de plaisir.
Voilà. Mais c'est ça le souci, parce que ça, malheureusement, ça s'apprend, effectivement. Nous, on faisait des versions grecques parce qu'il y avait le bac à passer, etc. On savait que c'était pour le bac, et à long terme, mais parce qu'on était éduqué à ça. Quand un ado me dit, mais je suis tolérant frustration puisque je fais des heures de skateboard, là je m'entraîne et je reprends, je dis oui, mais c'est toi qui as décidé de l'hédonisme à moyen et long terme, c'est toi qui as décidé de ton plaisir. Le problème, c'est oui, bien sûr, sinon on ne vivrait pas, mais est-ce qu'on peut accepter aussi que le principe de réalité nous contraint, nous oblige à des choses qu'on n'a pas choisies. Et c'est là que ça pêche en ce moment. C'est-à-dire, je choisis de faire quelque chose, mais je me frustre puisque, oui, mais non, mais tu n'es pas en train de voir que l'éducation de la frustration, c'est pas, j'ai décidé de ma frustration. Est-ce que tu acceptes ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'as pas envie de faire? Et c'est là que le bas blesse, parce que l'autre jour, je faisais une petite conférence en Bretagne, il y a une enseignante qui me dit, mais qu'est-ce que vous pensez des jeux pédagogiques? Alors je me dis, c'est quoi? Elle m'explique, ben oui, qu'on peut enseigner dans un autre contexte. Alors donc, dans ce cas-là, vous êtes en train de transformer le difficile en fun. C'est l'inverse. Il y avait trop de déplaisants quand on était enseigné, nous, quand on était gamin. On n'avait pas envie d'aller à l'école tellement c'était dur. Mais maintenant, on veut tout transformer en « ça va être sympathique ». Ça n'est pas sympathique. Alors, est-ce qu'on peut mixer les deux? Est-ce qu'on peut avoir des choses faciles, immédiates, qui donnent envie de jouer, d'apprendre? Mais est-ce qu'on peut aussi avoir des contraintes? C'est-à-dire, eh ben excuse-moi, mais avant d'exceller en littérature, je te demande non pas de lire Wikipédia pour voir Zola en diagonale, mais de te taper Notre-Dame, enfin, de Le Bonheur des Dames, 700 pages.
Voilà. Germinal. Jérémy Pelletier.
Ouais, non, je rebondis, c'est très intéressant. Dans l'enquête qu'on a menée, on a demandé justement à la population, d'une façon générale, s'ils étaient d'accord avec deux affirmations. Gagner suppose de faire des sacrifices. Et vous voyez qu'il y a une minorité de jeunes aujourd'hui qui est en accord effectivement avec cette phrase, et donc c'est pour faire le lien avec ce que vous disiez et aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au travail. Il y a la dimension sacrificielle, je dirais, du travail qui est beaucoup mise à mal maintenant depuis un certain nombre d'années en France pour sans doute des bonnes raisons et notamment depuis la crise sanitaire. Il y a une autre phrase qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation il faut souffrir pour réussir? C'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, c'est quelque chose qui structurait aussi beaucoup finalement le débat public français, le rapport aussi qu'on avait au travail. Et idem, vous avez une majorité de jeunes aujourd'hui qui sont en désaccord avec cette phrase. Ça signifie pas qu'ils ne sont pas ambitieux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup, il y a deux éléments. Il y a moindre appétence à la dimension sacrificielle, à donner finalement beaucoup d'efforts et donner des sacrifices par rapport à son travail. Mais par contre, il y a une grande, grande ambition, et donc une grande ambition pour effectivement obtenir, pour rejoindre ce que disait Didier Pleu, des satisfactions immédiates et des récompenses immédiates.
Didier Pleu ?
Non, mais je bois du petit lait, parce que c'est tout à fait ça. C'est le problème, c'est le refus du sacrifice, comme vous dites, moi ce que j'appelle de la frustration dans l'immédiat. C'est là qu'il y a le bas blesse. C'est pas sur les projets, des choses comme ça. C'est une incapacité chez certains, mais attention, adolescents comme adultes, à tout de suite se faire mal. Hein. Quand on parle, par exemple, de quitter le tabac, de quitter les trucs, c'est « arrêter la première cigarette, ça va être très dur ». Oui, c'est là que le bas blesse. On a beau dire « mais il n'y aura pas de cancer, tu vas moins t'essouffler, etc. ». Non, c'est dans l'immédiateté, est-ce que j'accepte de différer un principe de plaisir immédiat? Effectivement, quand quelqu'un était allaité à la demande et qu'ensuite il a une éducation très permissive et qu'ensuite l'éducation nationale lui fait du Montessori post-doltoïen, excusez-moi, Ali, mais il y a de grandes chances que
faut
la frustration...
Faut rappeler que vous n'êtes pas un grand adepte de Françoise Dolto.
Si, quand elle respecte l'enfant, non, quand elle parle d'éducation. Mais c'est vrai que tout ce climat qui disait que l'enfant doit s'épanouir dans le bien-être, dans la bienséance, dans l'empathie, c'est bien, mais il faut aussi l'éducation à la frustration.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, juste, c'est vrai que ça rejoint beaucoup les questions des parents actuellement. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement d'enfants à qui on demandait de tout accepter sans poser de questions, en gros, à un truc un peu extrême où effectivement, en tant que parent, beaucoup ont l'impression qu'il faut tout justifier auprès de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens à tout. Or, effectivement, il y a des choses dans lesquelles c'est important de donner du sens. Il y a des choses dans lesquelles on est en difficulté de donner du sens parce que la temporalité de l'enfant à long terme, autant dire que ça n'existe pas beaucoup. Donc, donner du sens aux études, donner du sens au solfège, à la musique, etc., c'est très compliqué. Mais effectivement, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'avoir forcément un sens immédiat tout de suite, et effectivement qui demande un effort, la participation à la vie de la famille, etc. On n'est pas toujours en capacité de justifier, et on n'a peut-être pas à justifier tout auprès des enfants.
Sébastien Bourret.
Oui, alors bien sûr. Hein, je pense que la question qu'on peut se poser par rapport à tout ça, c'est pourquoi on ferait un effort.
Oui.
Et je pense que la question qu'on peut se poser par rapport à est-ce que ça vaut le coup, c'est est-ce que on est dans une société où cette notion de valeur, qu'est-ce qui ferait qu'on fait un effort? On a le sentiment que elle est justifiée, elle est valable.
Dans quelques instants, on s'intéresse à cet objet, le smartphone, qui nous pousse à faire de moins en moins d'efforts. Ce sera juste après avoir écouté Musical Youth, qui interprète Pass the Dead She, un titre de 1982 à 10h25. This generation rules the nation with version. Music, I'm simply full of love. Sounds so really make Didier Pleu, vous avez fait beaucoup d'efforts sur les pistes de danse en 1982 sur ce titre, Musical Youth, Pas de
Chi. C'est plutôt le lâcher prise, ça, c'est autre chose. Mais au quotidien, on ne peut pas danser sur du reggae tout le temps. Quoi.
Tu vois, souvent, les gens ils disent qu'ils aimeraient voler dans le ciel et tout.
Grand bien vous fasse.
En fait, ça se trouve, voler, c'est fatigant.
Ali Rebéi.
Oh, la flemme d'aller au-dessus des nuages. Le temps d'y aller, t'es mouillé quand même.
Sur France Inter.
Avons-nous perdu le goût de l'effort? Nos sociétés sont-elles devenues plus flemmardes, moins motivées dans de nombreux secteurs de nos vies? C'est la question que nous posons ce matin. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à un outil qui nous pousse à faire beaucoup moins d'efforts. C'est le smartphone, quand par exemple nous le dégainons pour commander un repas à domicile. Certains parlent d'ailleurs d'économie de la paresse. Hein, Jérémy Pelletier, directeur d'études à la Fondation Jean Jaurès.
Oui, absolument, vous avez raison Ali, il y a une économie de la paresse, il y a une économie de la flemme. Globalement, le marché d'une façon générale s'adapte toujours très bien finalement au ressort important de la société, aux tendances importantes de la société. Et je vous cite ces deux exemples-là que je trouve assez emblématiques. Uber Eats, il n'y a pas très longtemps, lance son nouveau spot de pub, et son nouveau spot de pub, c'est l'art d'en faire moins, et cultiver l'art d'en faire moins. Une autre marque que je vais citer, même si c'est pas bien de citer des marques, la marque de viande Charal, pour promouvoir un burger à faire réchauffer au micro-ondes, avec comme spot « Vous avez la flemme, nous on a la flamme ». Et donc effectivement, il y a une économie de la flemme, il y a un marché finalement de la flemme, mais qui s'appuie en effet sur les ressorts qu'on a évoqués tout à l'heure, baisse de motivation, civilisation du cocon, recroquevillement sur sa sphère personnelle, moindre appétence à sortir de chez soi, et en effet on le voit dans l'enquête que vous avez environ 4 Français sur 10 qui disent aujourd'hui avoir beaucoup plus de mal par rapport à la période avant Covid à sortir de chez soi pour faire tout un tas d'activités.
Et oui, la crise sanitaire a accentué cette tendance. Et dans votre enquête, eh bien, on voit une forte prévalence à ne pas vouloir sortir de chez soi. 45% des personnes interviewées vous disent qu'ils ont la flemme de sortir de chez eux.
Ouais.
C'est énorme.
C'est énorme, mais on le voit d'ailleurs, ça touche beaucoup de secteurs. Alors on en parle beaucoup maintenant et notamment depuis la rentrée. Alors on insiste beaucoup sur l'effet prix et je parle là du cinéma. Mais évidemment que le cinéma est un des secteurs qui est le plus impacté, qui est le plus touché par cette flemme, par cette économie de la flemme. Vous voyez le marché des vidéoprojecteurs qui ne cesse de croître maintenant depuis deux ans. Vous voyez l'impact des plateformes évidemment de vidéo à la demande qui font aussi partie évidemment de cette économie de la flemme. Et donc ça a un impact. Il n'y a pas que le cinéma d'ailleurs. Il y a aussi, et moi, un secteur qui me touche particulièrement et que je trouvais très illustratif de ça, c'est le tissu associatif. Ce sont les clubs sportifs. Vous voyez que depuis le Covid, vous avez une disparition de tout un tas de clubs sportifs. Vous avez beaucoup moins de licences pour des clubs sportifs par rapport à la période avant Covid. Et donc, à mon avis, ça, c'est deux éléments. Le cinéma d'une part, les clubs sportifs d'autre part, avec en plus les clubs sportifs, la dimension physique dont on parlait tout à l'heure, qui sont, à mon avis, très, très symboliques et très illustratifs, en effet, de cette place, de cette épidémie de la flemme, comme si finalement, vous savez, il y avait une espèce de Covid long. On a souvent parlé de Covid long pour les malades, c'est-à-dire des gens fatigués plusieurs semaines après avoir contracté le virus, mais à mon avis, il y a aussi un Covid long qui touche non pas les malades, mais qui touche l'ensemble de la société française. Et en effet, ce Covid long, il a un impact sur tous les lieux à dimension collective et dont la matière première est l'accueil d'un public.
On a tous connu ça, Jérémy Pelletier, c'est samedi soir. Est-ce qu'on va au cinéma? Ah ben non, finalement, on va rester à la maison, on n'a pas envie de faire d'efforts, on va regarder une série Netflix, Amazon Prime ou Disney+. C'est une tendance durable pour vous, cette civilisation du cocon, de la pantoufle, c'est une tendance lourde.
Bah, en tout cas, c'était quelque chose qui préexistait à la crise. Ça a été évidemment accéléré par la crise sanitaire, mais c'est quelque chose qui préexistait à la crise. Avant la crise, vous aviez déjà les tendances, vous savez, ce qu'on appelait la privatisation de la fête et la fête à la maison. Et on voyait que tout un tas de lieux collectifs, les boîtes de nuit d'une part, les bistrots, les bars d'autre part, étaient de plus en plus en train de se réduire comme peau de chagrin, et notamment les boîtes de nuit, notamment parce que concurrencés, impactés par ce qu'on appelait la fête à la maison. La fête à la maison, c'est la fête finalement sans effort, c'est la fête sans hasard, c'est la fête sans aléatoire, c'est la fête sous contrôle, effectivement, qui est assez illustratif aussi de cette tendance de fond, mais en effet qui préexistait à la crise sanitaire. Et une petite étude là que je vous cite de mémoire, qui avait été réalisée par le Crédoc il n'y a pas si longtemps que ça, il demandait aux Françaises et aux Français, c'est quoi, selon vous, le vendredi soir idéal? Quelle est votre définition du vendredi soir idéal? L'élément qui arrive en tête, c'est un plateau repas devant sa télévision bien avant la sortie entre amis. Donc c'est une tendance de fond qui préexistait en effet la crise sanitaire. Faut pas tout mettre sur le dos de la crise sanitaire, mais la crise sanitaire a accéléré en effet des tendances de fond, notamment sur le recroquevillement et la civilisation du cocon.
Didier Pleu, psychologue clinicien.
Oui, ben le confinement, ça a accentué une sorte de régression, c'est-à-dire que certains se sont rendus compte que quand on est tout seul avec soi, avec ses pulsions, c'est formidable. Là, on est dans le principe de plaisir immédiat, et je crois qu'on a oublié que l'effort social qu'on avait à faire pour sortir, pour fréquenter, pour communiquer, a été abandonné. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un profond réflexe, quoi, entre aller au cinéma, même pour un plaisir à moyen terme, et puis rester à la maison, et puis se laisser... sur un sofa avec des cacahuètes ou je ne sais quoi, l'humain a tendance à dire bah autant rien faire, quoi. Et souvenez-vous le film, je crois que c'était la bande dessinée Willy, où on voyait ces personnages très 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 gros. Et puis si vous allez souvent aux États-Unis, j'ai la chance d'y aller parce que je travaille avec l'Institut de Ellis de New York. Et au Maryland, on voit quand même des Willy sur les parkings, c'est-à-dire des gens qui sont boum, stimulus immédiaté, on mange et puis on est gros, on est gros, on est gros, on laisse tout faire. Il n'y a plus du tout de sens de même pour marcher, ça devient difficile. Quand vous disiez, est-ce qu'à long terme,
c'est pas un peu caricatural?
Non, je pense que si on fait pas attention, on a déjà 30% d'obèses en France, quoi.
Sébastien Bourré, neurobiologiste, vous acquiescez?
Parfaitement. C'est Wally, le film. Hein.
Ah, c'est Wally, oui.
C'est Wally.
Mais non, parce que Wally, c'est mon genre. J'étais avec lui hier soir.
On est ravis de l'apprendre. C'est Wally, c'est le film de Pixar.
Oui, voilà. Bah, Wally, c'est mon genre. Excusez-moi.
On est ravis de l'apprendre.
Ça me fait sourire parce que j'ai dit à peu de choses près la même chose à votre collègue en préparant l'émission avec la même référence. Ce que je voulais ajouter à ça, c'est une remarque, hein, quelque chose qui me paraît intéressant. Je me souviens plus du nom de l'étude ni du nom des gens qui l'ont fait, mais c'est une étude sur la question de l'évolution du cerveau, des capacités cognitives en général. Et donc c'est quelqu'un qui remarquait que le cerveau de certaines espèces, qui avaient des capacités énormes, était moins gros que ce qu'on attendait, sachant l'histoire de l'évolution. Et ce que eux proposaient, c'était quelque chose comme il y a un moment dans l'évolution d'espèces qui sont très sociales où la société, les autres membres de la société prennent en charge une partie des efforts, des choses à faire pour survivre. Et donc l'individu se retrouve protégé. Et il a moins besoin de mobiliser ses ressources. Et donc, c'est leur proposition pour expliquer pourquoi notre cerveau est relativement petit par rapport à la trajectoire qu'il a pu avoir au cours de l'évolution. Mmh. Et je pense que la question qu'on peut se poser par rapport à tout ce qui a été dit maintenant, c'est... encore une fois, moi je pense qu'on doit minimiser l'effort, on a évolué pour ça. Si certains sont encouragés à faire comme Wally, à rester dans leur canapé, à ne rien faire, ça profite à la société, sinon la société ne le ferait pas. Et donc on pourra se poser la question de valeur, de à quel point on vit dans un monde où ça nous paraît normal qu'une partie fasse beaucoup moins d'efforts pour qu'une autre partie vende des smartphones. C'est une question, j'ai pas la réponse.
Jérémy Pelletier, dans votre étude, les Français, l'effort et la fatigue, il semble qu'un tiers des Français interrogés aient le sentiment d'être moins motivés dans ce qu'ils font depuis la crise du Covid, un sentiment qui s'élève à 40% chez les 25-34 ans.
Oui, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la baisse de motivation, à mon avis, qui est aussi à mettre en lien avec ce qu'on a beaucoup noté pendant la crise du Covid et depuis la crise du Covid, c'est-à-dire la fragilisation mentale d'une partie de la société. Et en lien avec le chiffre que vous citiez, Ali, moi, ce qui me frappe, c'est vous avez plus d'un tiers des Français qui se disent pas suffisamment solide mentalement pour gérer les aléas du quotidien, pas suffisamment solide mentalement pour gérer les aléas de la vie. Je le dis aussi de mémoire, vous avez 20% des 18-24 qui disent par exemple, par rapport à avant le Covid, avoir beaucoup plus envie de pleurer les jours et les semaines. Et à mon avis, tous les débats qu'on a ensemble depuis tout à l'heure sur la capacité de faire un effort, la capacité ou non d'être résistant physiquement ou non, sont à mettre en lien avec cette fragilisation émotionnelle et cette vulnérabilité finalement de la population d'une façon générale et encore plus spécifiquement de la jeunesse en particulier. Et il faut vraiment l'avoir en tête parce que cette plus grande vulnérabilité de la société fait que vous avez une capacité de résistance émotionnelle et à la fin physique aux choses qui est moindre. Et donc à la fin, effectivement, ces tentations du repli, tentations du cocon, comme vous l'avez cité tout à l'heure, à mon avis, c'est cette fragilisation émotionnelle psychique, en tout cas, est à mettre en lien avec cette moindre appétence et cette moindre capacité à effectuer un effort qu'il soit mental ou physique.
On pourrait parler d'une fatigue d'être soi pour reprendre le titre d'un livre d'Alain Ehrenberg.
Oui, absolument, vous avez raison, c'est la fatigue d'être soi, c'est la fatigue d'être au monde, c'est la fatigue face aux injonctions aussi contradictoires que peuvent recevoir une partie de la population et notamment la jeune génération. Effectivement, c'est cette grande fatigue généralisée. D'ailleurs, on le note dans l'enquête, vous avez quasiment un Français sur deux qui se dit plus fatigué par rapport à la période avant Covid, fatigué mentalement et fatigué physiquement. En effet, c'est cette fatigue d'être soi, on l'a mesuré sur tout un tas d'indicateurs. Vous voyez qu'on a une population, et notamment une jeune génération, soumise à des troubles de l'anxiété, à des troubles dépressifs. Je suis très frappé des remontées de terrain qu'il y a chez les infirmières et infirmiers scolaires dans les collèges et dans les lycées, qui nous disent avoir là un public depuis le Covid quasiment dans des situations d'agoraphobie, incapable finalement de supporter l'altérité, l'altérité d'un prof, l'altérité d'un camarade, etc. Et donc ces troubles anxieux, ces troubles quasi dépressifs, effectivement, sont à mon avis à mettre en lien aussi à cette moindre appétence à faire un effort et à la fin à sortir de chez soi.
Didier Pleu.
Oui, non, je confirme, parce qu'en consultation, effectivement, on voit de plus en plus de troubles anxieux, de pathologies chez les adultes et les adolescents, qui ne sont pas des pathologies, comme on disait dans le temps, de l'ego, de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais qui sont des pathologies, d'une grande vulnérabilité au principe de réalité, quoi. Tout devient dur, tout devient difficile. C'est pour ça que c'est ça le grand paradoxe, c'est dramatique. C'est, si on n'éduque pas nos enfants, nos ados, nos jeunes adultes à la frustration, le contexte actuel est encore plus dur. Il sera beaucoup plus dur au niveau de la précarité de l'emploi, au niveau de la fidélité dans les couples, au niveau de la santé, de l'environnement, et on affaiblit, les gens deviennent de plus en plus vulnérables. C'est pour ça que je dis toujours, il va falloir muscler le cortex par rapport à ce fameux striatum, etc.
Striatum, rappelez ce que c'est en quelques mots.
Non, mais le cortex, c'est l'endroit du cerveau où on réfléchit, où on se distancie, où c'est en interaction avec toutes les zones un peu plus archaïques et reptiliennes. C'est ça qu'on propose dans les psychothérapies cognitives, c'est-à-dire que si on ne muscle pas la pensée, la réflexion, et si on ne stoppe pas l'aspect pulsion, on n'est pas bien.
Sébastien Bourré.
Ça, je pense que c'est une vision un peu héritée, pardon, mais je pense que c'est une vision héritée de notre culture religieuse, l'inhibition des pulsions.
C'est la psychanalyse, je ne suis pas très freudien.
Alors, moi non plus, mais si on essaye de regarder le cerveau sans ce biais culturel, il se trouve qu'il y a des zones qui s'appellent le striatum, qui de toute façon ne fonctionnent pas indépendamment.
Le
striatum, c'est une région du cerveau qui est sous le cortex et qui est impliquée dans... le mouvement d'une part, les émotions d'autre part, et qui fonctionne, le fonctionnement du striatum.
On peut dire que c'est le siège du principe de plaisir, pour le dire vite.
Non.
D'accord.
Je suis désolé, hein, mais le principe du plaisir, s'il y a une chose qui permet de gérer le plaisir, c'est les opioïdes, les opiacés. On a un système opioïde naturel. C'est ça qui génère du plaisir. Je vais pas vous faire un topo sur la différence entre plaisir et désir, mais c'est extrêmement clair en neurophysiologie qu'on peut bien distinguer la notion de plaisir qui est liée aux opioïdes et la notion de désir et d'impulsion, etc., de motivation qui est liée à la dopamine qui va jouer sur le striatum. Mais on est dans notre cerveau, le cerveau de la plupart des mammifères, le cortex, c'est pas un truc qui contrôle le striatum, c'est quelque chose qui permet d'avoir des comportements qui sont sophistiqués et qui sont ce qu'on va appeler construits, dirigés vers un but volontaire, et donc qui vont permettre d'organiser le comportement avec une plus grande échelle dans l'espace et dans le temps. Et donc c'est pas qui va inhiber le striatum, c'est qui va proposer des choses qui sont plus construites et qui va permettre de les adapter pour que cette notion de plaisir, elle soit transportée dans l'espace et dans le temps.
Non, mais je parlais pas du cortex inhibiteur ou senseur, en interaction avec les zones les plus pulsionnelles. Hein. C'est ça l'affaire. Si, c'est ça qu'on fait en psychothérapie. Hein. Si nos pensées arrivent à mettre des mots sur les pulsions, il y a de grandes chances qu'on puisse faire des synthèses émotionnelles tout à fait positives. Et comme disait Lacan, attention, la jouissance, tu le désires. Donc ça voulait bien dire qu'il fallait passer par le langage.
10h43, l'heure de retrouver ma vie de parent de Gonelle Boulet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Gwenaëlle Boulet, vous avez décidé de nous livrer sans phare votre difficulté à transmettre sereinement le goût de l'effort à vos enfants.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'attendais avec beaucoup d'impatience cette émission, pour grappiller d'utiles conseils de la part de nos experts. Non, parce que je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais moi, avant d'être parent, je ne m'étais pas vraiment interrogée sur ce que je souhaiterais mettre au cœur de l'éducation de mes enfants le jour où j'en aurai. Alors, globalement, les rendre heureux, oui, mais comment? En les aidant plutôt à être libres, créatifs, enthousiastes, curieux, autonomes, obéissants, révoltés, travailleurs, tout ça à la fois.
Et maintenant que vous en avez, vous savez mieux?
Alors oui, alors bon, j'aurais adoré découvrir ça sereinement, en mode petit moment de recul, analyse, plan d'action. Sauf que dans la vraie vie, j'avoue que j'ai plutôt découvert mes valeurs primordiales à coup de 6 sur 20. Non mais je rêve, t'aurais quand même pu faire un petit effort, suivi au top de ma fatigue d'un petit « c'est quand même pas si compliqué d'apprendre ces verbes irréguliers ». Ou bien, bon, ça fait 3 semaines que t'es sur le même morceau de piano, tu vas quand même faire le plaisir de faire un petit effort pour passer à autre chose. Hein. Bref, c'est à travers mes énervements, mes boutons rouges et mes sorties de route que je crois avoir vraiment découvert combien les capacités à produire un effort étaient une valeur qui, à tort ou à raison, m'était chère.
Quitte à utiliser cette notion à toutes les sauces.
Et oui, car comme sur beaucoup d'aspects de la parentalité, je me rends compte qu'en général, plus une question a de la valeur pour vous, et plus on se crispe dessus, on en fait un beau bloubi-boulga, devenant souvent assez contre-productif. Car au fond, oui, je suis profondément convaincue que développer le goût de l'effort, quel qu'il soit, permet d'accéder à un certain nombre de satisfactions profondes et donne les moyens de construire les conditions de son propre bonheur. Mais je me rends compte qu'à titre personnel, cette évocation de l'effort est souvent l'arbre qui cache la forêt de ma maladresse, voire de mon incompétence à transmettre ce goût de l'effort tant désiré.
Mais Gonelle, vous êtes un peu dur avec vous-même quand même.
Bah, franchement, qui peut honnêtement croire que c'est en répétant à un enfant ou à un ado de faire des efforts que cela va avoir du sens pour lui? Tout comme vous aurez beau me répéter que c'est tellement bon de se dépasser physiquement en courant un marathon, je pense que les poules auront des dents avant que vous me voyez chausser des running. Et pourtant, comme le dit si bien Albert Einstein, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Alors non les parents, nous ne sommes pas tous fous. En revanche, si vous vous heurtez aux mêmes difficultés que moi, il est peut-être temps d'envisager de changer un peu de stratégie.
Alors comment on s'y prend?
Bon, ce qui est sûr, c'est que si l'effort vous semble une valeur essentielle, il n'y a aucune raison de l'abandonner. Hein. Car rappelons-le, éduquer c'est aussi faire des choix et assumer ce qu'on souhaite transmettre. Mais pour peut-être viser un meilleur résultat, on peut se lancer peut-être quelques défis. Par exemple, on sait que l'exemple vaut mieux que le discours. Alors en sport, en cuisine, dans notre travail, quand on bricole, donnons à voir à nos enfants notre propre effort et surtout la satisfaction qui en découle. Petit défi numéro 2, osons dire que quand quelque chose est compliqué, même pour nous les adultes, mais qu'on va y arriver si on s'en donne le temps et puis les moyens. Petit défi numéro 3, peut-être à l'adolescence en particulier, osons les défis de façon plus ludique pour sortir de l'affrontement. Cap ou, pas cap de prendre ta douche en 3 minutes, mon chéri. Mobilisons aussi les réussites passées. Souviens-toi, quand tu t'étais dit que tu n'y arriverais jamais, bon, au final, on est d'accord, tu l'as réussi ce truc. Laissons nos enfants rêver, se détendre et goûter parfois quand même aux joies de la paresse, mais fixons des limites claires au moment d'écran passif. Et enfin, pour les activités, l'orientation scolaire plus tard, prenons le temps de comprendre quand même leurs choix. Après tout, on est tous davantage capables de produire des efforts pour ce qui nous motive que pour ce qu'on nous impose tout le temps, alors faisons-leur peut-être aussi un peu confiance. Voilà, le programme du jour est terminé. Il n'y a plus donc qu'à faire aussi un petit effort de notre côté, les parents.
Ma vie de parent à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. Gwenaëlle Boulay, vous êtes par ailleurs rédactrice en chef de Pomme d'Api avec un numéro très joli, Sacrée Sorcière, avec à l'intérieur...
Oh là là, une sublime maquette d'un manoir, ah oui, incroyable, un manoir hanté, je vous le conseille vraiment pour Halloween.
Didier Pleu va me le piquer, ça je le sens. Comment retrouver le goût de l'effort? On esquisse quelques solutions juste après avoir écouté MC Solar, Big Flo et Oli qui interprètent Bons Élèves.
Flash, photographe, autographe, et puis crash. Tout le monde te lâche, oui le monde peut être.
Je suis un produit, moi et mes mots, que l'on consomme en chantant mes sentiments dans des morceaux, sur des albums que je vends. Je pense aux concerts, je pense aux radios, à la télé, évidemment. Je donne ma chair, mes idéaux, et je ressens un vide en moi. Est-ce qu'on devient toujours ce qu'on dénonce? Mes fans m'appellent par mon prénom. Tic-tac, tic-tac, c'est le décompte. Ils veulent de moi toutes les réponses. Bien sûr que j'ai exagéré un peu. En vrai, je vous connais pas. Et je vois bien qu'Oli le vit mieux que moi. Que des deux, je suis le moins sympa.
Ils disent tout ça.
Le rap m'a sorti sa facture. Moi qui l'avais appelé au secours. Des milliers d'inconnus qui m'aiment. Comment tous les aimer en retour? On a beau le dire, mais dans l'absolu, pourquoi on oublie l'atterrissage? Voilà l'ironie. Je voulais être connu. Et maintenant que je le suis, je cache mon visage. Et plus on s'élève, plus on s'enlève de ce qu'on surplombe. Tout le monde veut devenir célèbre. Tous les gens célèbres voudraient être tout le monde. Alors oui, je bois pas, je fume pas. Je suis un exemple pour la génération. Mais j'adore le casino et le sexe. Et j'en parle jamais dans toutes mes chansons.
Tu vois qu'on se lâche.
Les bons élèves, premiers de la classe. Je crois que c'est pas si vrai. Enfin, je sais plus trop. Les adultes voudraient faire de nous des exemples. De nouveaux symboles caricaturaux. Mais le rap me regarde de travers. Il aimerait que je dévoile tous mes défauts. Il me défie, je mets l'effort. Mais il revient malgré tous mes efforts. Je suis qu'un artiste, j'écris forcément pour les gens. Je ne suis pas que mes désirs. La frontière entre ce qui me plaît vraiment et ce qui vous fera plaisir. À chaque fois je recommence pourtant. Ma vie et mes vœux, je t'ai en pâture. Oli m'a dit donne tout pour les gens. Tout ça c'est grâce à eux. Mais j'en suis pas sûr.
Ce qui se façonne avec le temps s'en va avec le temps. Et c'est les têtards qui se prennent pour les meilleurs de tous les temps. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Mama, je suis une star, pardon si je ne réponds pas. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Maman, je suis une star, pardon si je te réponds pas.
MC Solar, Big Flo et Oli, bons élèves.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Avons-nous perdu le goût de l'effort? C'est notre question ce matin. Sébastien Bourret, je rappelle que vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS. Quand on parle d'effort, on parle de motivation. C'est une notion assez complexe, la motivation. Comment elle fonctionne?
Voilà, oui, c'est effectivement... On n'a pas le temps pour ça,
est-ce qu'il existe des dizaines de théories de la motivation?
Oui, oui, il existe plein de théories de la motivation et c'est un mot très général. On a tous nos intuitions sur ce que ça peut être ou pas être. Ce qu'on essaye de faire nous, de façon générale, quand on s'intéresse à la motivation, c'est de la définir de façon opérationnelle. Donc, à quoi ça sert? Et donc on parle de motivation incitative, qui est ce processus, ce que je disais tout à l'heure, qui permet de mobiliser des ressources quand la récompense est plus grande. Et donc on va dire mobiliser les ressources, c'est est-ce qu'on fait un effort, est-ce qu'on va courir plus vite, est-ce qu'on va arriver plus tôt, est-ce qu'on va appuyer plus fort sur une pince, est-ce qu'on va calculer plus efficacement si on nous donne un calcul mathématique compliqué? Est-ce qu'on va plus que concentrer pour aux échecs? Tout ça, on le fait spontanément parce que la récompense est plus grande. C'est un peu lié à la notion de motivation intrinsèque.
Mais au fond, qu'est-ce qui me motive, par exemple, à venir à mon travail le matin, à descendre au supermarché plutôt que de commander sur une appli, d'apprendre ses leçons, aller faire du sport
Là, ce qui vaut, et donc cette notion de motivation, elle est liée au plaisir qu'on doit ressentir. Elle est liée à, elle implique qu'il y ait un encore une fois, c'est la notion de motivation intrinsèque où ce qu'on fait est agréable. Par définition, on parle de motivation
intrinsèque. Ça veut dire que ça vient de soi.
Ça veut dire que l'acte en lui-même est plaisant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trouver une raison de le faire parce que de l'acte, un exemple qu'on donne souvent, c'est lire un livre. Quand on lit correctement, lire un livre, c'est plaisant en soi. On lit pas forcément pour autre chose, on lit parce que c'est plaisant. Dans ces cas-là, on parle pas d'effort. En fait, la notion d'effort, elle arrive quand on n'a pas de motivation intrinsèque, quand ce qu'on fait n'a pas de valeur en soi. Et alors, c'est là où, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand on a besoin de faire quelque chose maintenant qui est pas spécialement plaisant en soi, mais qui va nous apporter une forme de bonheur plus tard, là, une notion de contingence qui est importante, il faut que ça soit un but, qu'on se soit fixé, qu'on se soit représenté, alors on va faire un effort pour avoir ce bonheur plus tard.
Didier Pleu, psychologue clinicien.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à... C'est l'essentiel de l'effort, c'est effectivement est-ce que je vais accepter de faire quelque chose, mais justement parce que j'en ai pas forcément envie. Et c'est là que je te répète inlassablement que ça peut s'apprendre, c'est par habituation, c'est par une espèce de discipline de vie, parce qu'on est tous d'accord, quand on a envie de faire quelque chose, c'est qu'on se projette pour une récompense future. Mais ce qu'on peut accepter, c'est cette phase 1 de beaucoup de choses qui ne donnent rien immédiatement, mais qui ne donnent que du déplaisant et du frustrant. Quand je demande à mes petites filles d'aller ramasser des noix, elles n'ont pas envie. Donc je leur demande pas si elles ont envie ou pas, si ça va leur faire plaisir. On ramasse les noix parce que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la parentalité, si on fait de la moraline, je suis en train de t'enseigner l'effort, ma chérie, c'est bon pour ta structuration psychique, elles s'en tapent. Par contre, si je leur dis on ramasse les noix, pas facile, c'est mouillé, c'est truc, on salit les doigts, et après, tiens, on les nettoie, et après, on fait des petits paquets, puis après, on va les donner à la grand-mère, et après, on va les donner aux copains, elles voient ce que c'est que l'hédonisme à moyen et long terme. On s'est enquiquiné à ramasser les noix, mais après, quel plaisir, peut-être même de faire un gâteau. C'est ça l'enseignement, c'est le partage, c'est pas la moraline, l'effort est bon pour toi.
Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Moi, ce qui me frappe aussi dans tous ces débats-là, finalement, enfin, si on réfléchit à quels sont les ressorts aussi pour s'acculturer un peu à l'effort, à mon avis, il faut essayer de casser, vous savez, cette phrase en fait que vous citez souvent justement une jeune génération et la jeune génération. Ah oui, mais c'est mieux comme ça parce que c'est pratique ou c'est plus utile ou c'est plus efficace. C'est et à mon avis, en tout cas, la référence au c'est pratique. Typiquement, je prends un exemple parmi d'autres, mais il y a souvent cet exemple qui est cité, c'est celui des rasoirs jetables. Rasoirs jetables, en effet, par définition, c'est plus pratique. C'est plus pratique, c'est plus léger qu'un rasoir qui a 20 ans ou 30 ans d'ancienneté, qui a 20 ans ou 30 ans d'expérience. C'est plus pratique, vous le sortez, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle après. Effectivement, c'est plus pratique, c'est plus efficace sur l'immédiateté. Ça prend moins de temps que de prendre son vieux rasoir, que de le laver, que de le soigner, que d'en prendre soin, etc. etc. À mon avis, toute cette culture du jetable, justement, alors on en revient un petit peu dans l'époque de la sobriété dans laquelle on est, mais à mon avis, cette structure aussi énormément cette moindre capacité, pour le coup, à faire un effort. Et donc je crois qu'il faut essayer de casser ça, il faut essayer de casser la dimension pratique immédiatement, la dimension utile immédiatement pour retrouver aussi une part de rêverie aussi et de poésie entre guillemets à travers les différents éléments que j'ai cités comme le fait de laver un rasoir qui peut être aussi une activité qui a sa part de rêverie.
Et il y a du culturel pratique avec Wikipédia. Effectivement, c'est plus pratique de connaître Proust sur Wikipédia que de se taper ces 4 volumes. Quoi. Ouais. Donc c'est là qu'il faut confronter tout ça.
Vos pistes pour cultiver le goût de l'effort, Didier Pleu.
Les pistes, c'est de réinclure des choses tout à fait, je dirais... simple, banal, c'est-à-dire si on perçoit bien l'importance de cette histoire de frustration liée à l'envie, etc., et qui va rendre les gens moins vulnérables, je crois qu'il faut reprendre des activités plus difficiles, comme sportive à long terme, musicale à long terme, de s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est une sorte de discipline de vie, quoi. Donc, ça peut pas venir tout d'un coup parce que inside, prise de conscience, j'en ai besoin. Il faut faire des choses. Et je voyais l'autre fois, on parlait, nous, des retraités. Je prends pas de retraite, hein. Lié qu'on m'a demandé, je consulte. Oui, je consulte encore parce que ce serait une bêtise. Attention. J'ai pas un métier épuisant physiquement, c'est voilà. Pour ça que je continue.
Faut
avec
le préciser.
Un cinquième de temps. Mais on parlait de ça avec mon superviseur américain qui est venu me voir. C'est vrai que être en retrait, ça veut dire qu'à un moment donné, je voudrais être dans une réalité qui n'est que plaisante. Le vieillissement n'est pas plaisant. Donc, si je me donne pas une discipline de vie avec des choses encore contraignantes, des horaires, des gens que je peux aider, etc., je me rends encore plus vulnérable devant la finitude. Mmh. Donc, c'est une loi qui est bonne non seulement pour les jeunes, mais pour les plus vieux.
Sébastien Bourret.
Ouais, moi, je pense que le goût de l'effort, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Je pense que ça n'existera jamais. Par définition, on ne doit pas faire d'effort. Et donc, je pense que reprendre l'exemple des rasoirs jetables, je pense qu'il est formidable. Si notre société met des rasoirs jetables dans les rayons des magasins, alors les gens doivent les prendre parce que c'est plus simple. Et donc, je pense que soit nous, collectivement, décidons qu'on veut une autre façon de vivre. Et alors, on valorisera l'effort parce que on n'aura plus de rasoirs jetables dans les rayons, et ça sera très bien. Mais sinon, on peut pas arrêter de minimiser la dépense. Ça, c'est un premier point. Et je pense par ailleurs que c'est un peu le ton que vous aviez, Gwenaëlle. Je pense qu'il faut, si on veut faire un effort, il faut valoriser. Il faut que les objectifs à long terme, c'est à ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ce qu'on veut atteindre dans le futur soit tellement mieux, tellement bien, et que les gens qui nous entourent font ça aussi, alors on refera naturellement des efforts.
Jérémy Pelletier.
Peut-être d'un mot, peut-être le ressort qu'on peut utiliser, notamment auprès de la jeune génération, sans la stigmatiser, c'est le fait peut-être de lui montrer que l'effort, à un moment donné, par exemple l'effort physique, est une expérience in fine stimulante. C'est une jeune génération qui repose beaucoup, en tout cas, et qui utilise beaucoup ce terme-là d'expérience. Faut que tout devienne une expérience. Faut que tout dans sa vie, l'ensemble des activités, soit une expérience unique, inédite. À mon avis, c'est à travers ce ressort-là qu'on peut arriver à les acculturer de nouveau à un effort et leur montrer qu'effectivement, l'effort de rejoindre un club sportif collectif plutôt que de faire du sport dans son appartement ou dans sa maison est quelque chose de plus stimulant et c'est une expérience stimulante, plus intéressante effectivement que rester seul chez soi.
Merci beaucoup, merci à tous, merci Didier Pleu, citer le titre de votre livre, de votre dernier livre.
Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien.
Chez Odile Jacob, merci beaucoup Sébastien Bourret d'être venu. Merci Jérémy Pelletier. On pourra lire très bientôt votre étude sur le site de la Fondation Jean Jaurès.
Absolument, très bientôt, dans les prochains jours, prochaines semaines. On venait faire du teasing aujourd'hui chez vous.
Allez, vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli France Inter. Demain, nous vous proposons une petite philosophie du mou dans la lignée de cette émission en compagnie notamment de la philosophe Géraldine Mona Savoie. Nous célébrerons la force du mou, de la mollesse, dans tous les domaines de notre vie.